Vous êtes sur RTL.
18h. Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'info tous ensemble. Ce soir à la une, on a envie de vous raconter une belle histoire, une histoire qui finit bien. Souvenez-vous, ces dernières semaines, vous entendiez sur RTL la douleur d'une famille franco-afghane. D'un côté, le papa, resté à Rennes en Bretagne. De l'autre, sa femme et ses enfants, coincés à Kaboul après leurs vacances, terrés par peur des talibans, ils n'avaient pas pu fuir le pays. Eh bien, un mois et demi plus tard, ouf de soulagement, la famille sera réunie dans les jours à venir. Le récit de cet épilogue heureux dans un instant. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. RTL au cœur de cette classe dans laquelle une enseignante a été bousculée par un de ses élèves. C'était vendredi à Comblaville en Seine-et-Marne. Récit de l'incident et réaction auprès des camarades du jeune agresseur. Dans ce journal aussi, allocation, numéro de téléphone, situation familiale. Hier soir, des allocataires de la CAF ont eu accès aux comptes d'autres personnes. Incident informatique en cours de réparation. Et puis après ses buts en bleu, Karim Benzema sur la route du Ballon d'Or. Son club, le Real Madrid en tout cas, a commencé à faire campagne. Les courses dans le Quintet Plus aujourd'hui à Anguin. Il fallait gérer le 3, le 9, le 6, le 16, hélas.
Dans un quart d'heure, l'invité de 18h15 sera Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, veut priver d'élection Éric Zemmour. La raison, il a été condamné pour provocation à la haine raciale. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, 18h30, record de pêche de coquilles Saint-Jacques. Quand on veut protéger une espèce, eh bien on peut, la preuve. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière par Toutatis. On va vous présenter le nouvel Astérix qui va nous emmener en Europe de l'Est. Et puis à 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu?
Ce soir, on défait le monde, s'intéresse au secret de la confession. Loi de la République face à loi religieuse. Vous comprendrez comment fonctionne la hiérarchie des normes. Au menu également, un champion du monde de l'œuf en morette et un défi pour les 70 ans de Jean-Jacques Goldman. Soyez à l'écoute.
À 19h15 du débat autour d'Éric Brunet, on va refaire le monde et notamment revenir sur cette agression de Comble-la-Ville et puis des points réguliers sur le temps. Avec vous, Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir, Julien.
Quelle est la tendance?
Eh ben, comme aujourd'hui, hein, du temps sec demain sur toute la France. Encore un peu l'été indien qui se prolonge. Quelques nuages quand même dans les régions du nord-est qui pourraient persister en cours d'après-midi. Puis les températures à peu près de saison comme aujourd'hui, 14 à 21 degrés du nord au sud.
Détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc avant toute chose, des retrouvailles en perspective et surtout la fin de plus d'un mois d'angoisse.
Pour Fawad, ancien interprète de l'armée française en Afghanistan, aujourd'hui installé à Rennes, il va retrouver sa femme et ses 3 enfants restés bloqués à Kaboul depuis la victoire des talibans. Début septembre, sur RTL, l'une de ses filles avait lancé ce bouleversant appel.
On a très très peur des talibans. On ne peut pas aller à l'école. C'est long, c'est trop long.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton papa, là?
Qu'il nous sorte vite d'ici.
Ouais, oui, pleure.
Et cette petite fille, aujourd'hui, elle est en route pour la France. Patrice Gavard, la famille de Fawad a pu quitter l'Afghanistan.
Oui, le visage de Fawad s'est illuminé ce matin, peu après 10 heures, dans le bureau de son entreprise d'emballage alimentaire, lorsqu'il a reçu une petite vidéo de sa femme et ses 3 enfants à bord d'un avion prêt à décoller de l'aéroport de Kaboul pour Mashhad, en Iran.
C'est mes enfants, en fait, c'est dans l'avion, ils se sont servis des repas. Donc mon fils, il est content qu'il va la canette de Coca-Cola dans le repas. C'est vraiment un soulagement. Après plus de 3 mois qu'ils sont là à Kaboul.
Livrée à elle-même, cette famille a fait le tour des ambassades des pays voisins ces 15 derniers jours pour tenter d'obtenir un visa et fuir l'Afghanistan, le Pakistan, le Turkménistan. Et c'est finalement avec l'Iran que ça a fonctionné. Le vol commercial a été confirmé samedi, mais Fawad craignait encore ce matin une réaction des talibans.
J'avais peur que les talibans ils bloquent ma femme et mes enfants en disant que vous êtes toute seule, vous n'avez pas d'homme avec vous, donc vous ne pouvez pas entrer dans l'aéroport. Et finalement, je ne sais pas, ça peut être à cause de pression des autres communautés internationales sur talibans qu'ils ont laissé tranquillement les gens quitter Kaboul.
Sans nouvelles de sa famille privée d'internet depuis l'envoi de la vidéo, Fawad a quand même pris soin de vérifier que l'avion avait bien atterri en Iran comme prévu vers 12h30. Pleinement rassuré, il a alors rejoint une salle de sport, comme il le fait depuis des mois, pour se changer les idées avant de reprendre le travail. Demain, il sera à Roissy pour accueillir sa femme et ses 3 enfants.
Moi, je suis... Tout va bien. Je suis content. Ouais.
méfiant jusqu'au bout, mais heureux au final. Et on suivra évidemment ces retrouvailles sur RTL. Merci Patrice Gabart. Non seulement bousculé par un de ses élèves, mais en plus filmé.
Alors, comment poussez-vous, madame ? Voilà, poussez-vous,
madame. Cette enseignante de Comte-la-Ville en Seine-et-Marne a porté plainte, elle qui a été projetée au sol par un élève en tentant de l'empêcher de sortir de la classe.
Et les élèves, justement, de cette classe, vous les avez rencontrés pour RTL, Guillemette Franquet. Et ils ont tenu à vous raconter ce qui s'est passé exactement vendredi dernier.
Oui, ce vendredi, en plein cours, un élève dissipé a refusé de se calmer et la situation s'est envenimée, comme le raconte Mathis, un camarade de classe du jeune agresseur.
Il s'amusait un peu à mettre de la musique dans la classe. La prof a demandé de retirer l'enceinte. Et de là, ça a dégénéré, il n'a pas voulu. Elle lui a demandé de sortir de la classe, elle s'est imposée devant la porte et Yacine, bah, il n'a pas pu se contrôler. Et voilà.
Le jeune a tiré violemment la porte. La professeure a alors été projetée par terre.
Guillemette, vous qui avez discuté avec ces lycéens, comment ont-ils vécu cet incident ?
Eh bien, les autres élèves se désolidarisent de cette agression. Mathis ne cherche pas à excuser son camarade de classe.
On ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est inadmissible, mais on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Après, on va essayer de parler à Yacine aussi de notre côté, de voir ce qu'il en est, discuter avec lui. Bon, il regrette. Ça a été fait sur le coup, comme il était filmé, il s'est senti pousser des ailes.
Florian, lui aussi, était présent vendredi. Pour lui, tous sont marqués par cet incident inhabituel.
Tout le week-end, on en parlait entre nous, parce que c'est pas normal du tout. Ouais, c'est choquant. Bah, on espère que la prof, déjà, se remette de ses émotions et qu'elle revienne vite en cours.
Tous les élèves espèrent que cette agression ne ternira pas l'image du lycée Jacques Prévert.
Guillemette Franquet à Comble-la-Ville pour RTL. Une garde à vue injustifiée, les mots de la maire de Cantleu arrêtée vendredi dans le cadre d'un coup de filet anti-drogue. « Je sais que je suis irréprochable », a-t-elle ajouté. 5 personnes ont été mises en examen dans cette affaire, 4 autres devaient l'être aujourd'hui.
Un bug sur le site de la CAF et des allocataires qui ont accès au dossier d'autres personnes. Au total, 7000 comptes ont ainsi pu être consultés.
Sur plus de 13 millions d'allocataires au total, un bug qui a tout de même duré plusieurs heures hier soir à Agathe-Landais.
Oui, car à partir de 21h, les personnes qui se sont connectées sur leur compte, comme Sacha, ont eu droit à une drôle de surprise.
Je m'aperçois qu'en fait, c'est pas du tout mon compte, mais celui d'un inconnu total qui n'habitait même pas à côté de moi. J'avais vraiment accès donc, à son compte comme si c'était le mien. Donc je pouvais naviguer dans les onglets, aller chercher des informations sur lui, sur son état marital par exemple, sur le nombre de ses enfants, sur son quotient familial, sur ce qui touchait par mois de la CAF. Enfin voilà, j'avais tout sous les yeux.
Ceux dont les informations personnelles ont été vues, donc par d'autres allocataires, seront informés, promet la CAF, qui présente d'ailleurs ses excuses pour cet incident technique. Depuis ce matin, les espaces personnels sont inaccessibles car les services techniques sont en train de résoudre le problème.
Et est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé exactement ?
Alors, selon la CAF, il s'agit bien d'un incident informatique, pas d'un piratage. En fait, depuis ce samedi, pour se connecter sur son compte, il faut entrer son numéro de sécurité sociale et non plus son numéro d'allocataire. C'est à cause de ce changement d'identifiant que le bug, heureusement très très peu commun, a eu lieu.
Les précisions d'Agathe Landais pour RTL. La dynamique confirmée d'Éric Zemmour, mais relativisée hein, selon un dernier sondage IFOP qui donne aux polémistes 14% d'intention de vote, mais en quatrième position derrière Emmanuel Macron, Xavier Bertrand et Marine Le Pen.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant. Buteur hier, et pourquoi pas Ballon d'Or demain. En tout cas, le lobbying est lancé pour faire de Karim Benzema le meilleur joueur du monde. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Et donc la suite de votre journal, 18h10 sur RTL avec ce quotidien qu'on peine à imaginer. Sans frigo, sans lumière la nuit, sans courant pour se chauffer. Ce quotidien, c'est celui des Libanais, dont le pays reste englué dans la crise.
Une des pires crises dans l'histoire du monde depuis 1850, selon la Banque mondiale. Ce week-end, le Liban a vécu un blackout total. Et malgré une remise en service partielle, les problèmes sont loin d'être réglés, comme l'a expliqué Élie, joint à Beyrouth par Alice Moreno pour RTL.
L'électricité de l'État vient pour 1 à 2 heures par journée. C'est pas gérable du tout. C'est trop lourd. Le soleil se couche plus tôt et on est dans le noir. On ne peut pas voir. Et ça peut menacer les services essentiels. Les distributeurs centrales de l'eau marche sur l'électricité de l'État. On a un grand problème d'hygiène maintenant. On manque de tout. On manque de choses à manger essentielles. On est dans une grande banque.
Des problèmes en cascade et ce témoignage recueilli à Beyrouth par Alice Moreno pour RTL. 1,53€ en moyenne la semaine dernière, le nouveau record du prix du litre de gasoil, plus 28% en un an.
On en vient maintenant à ces deux réalisations qui tombent à pic. Les deux derniers buts en bleu de Karim Benzema pourraient bien lui ouvrir la voie du Ballon d'Or.
L'attaquant décisif en Ligue des Nations contre la Belgique et l'Espagne, mais désormais Eric Silvestro, son nom revient de plus en plus dans la course au Ballon d'Or.
Oui, effectivement, la cote de Karim Benzema ne cesse de grimper. L'idée d'associer son patronyme à ceux de Copa, Platini, Papin et Zidane au palmarès prend de l'ampleur. Avec 34 buts et 13 passes décisives en 48 matchs en 2021, club et sélection confondus, Benzema affole les compteurs. Surtout, il vient de décrocher un titre, la Ligue des Nations, au moment où les 30 nommés pour le Ballon d'Or étaient divulgués et que les votes s'ouvraient. Idéal pour marquer les esprits. Mais ce n'est pas tout. Benzema peut également compter sur le lobbying du Real Madrid, club le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux et qui a tweeté hier, juste après le succès des Bleus, félicitations à notre joueur spectaculaire Benzema Ballon d'Or. Même l'Italie, championne d'Europe, s'inquiète car avec 5 nommés, le risque d'une division des votes, comme pour les Français après la Coupe du Monde 2018, est grand. Alors oui, Benzema peut rêver de Ballon d'Or.
Et réponse le 29 novembre prochain.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec un autre Français qui brille, celui-là en apnée. C'était pourtant pas gagné ce week-end. Arnaud Gérald a été sacré champion du monde en Turquie. Et pourtant, peu avant de plonger, on lui avait annoncé qu'il ne pourrait pas descendre parce que soi-disant positif au Covid. En fait, l'hôpital s'était trompé. Autant dire qu'il est passé par tous les états. Mais finalement, il s'est mis à 25 ans, le jeune homme, en mode machine.
C'est l'une des premières fois où je plonge en mode boulot, tellement concentré qu'il n'y a plus cette notion de plaisir, il n'y a plus cette notion de s'échapper, d'essayer de sentir la liberté qu'on peut avoir à ces profondeurs-là. Il fallait faire le job.
Et il l'a fait, le
champion
job.
Champion du monde.
Champion du monde, à 25 ans, pas mal.
Encore un qui rapporte la coupe à la maison. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps, Louis Baudin, qu'est-ce que ça donne pour demain?
Eh bien, ça nous donne du temps sec encore. On reste dans des conditions anticycloniques. Alors c'est vrai qu'à l'automne, conditions anticycloniques, ça ne veut pas dire forcément grand soleil. Au contraire, même demain matin, il y aura des brouillards, des nuages bas, principalement du centre au nord et au nord-est. Mais en cours d'après-midi, ces nuages se lèveront. Alors plus ou moins vite, on l'a vu aujourd'hui, ils ont persisté dans le nord-est, ils se sont levés en Bretagne, près de la Manche. Eh bien demain, ça devrait être à peu près la même chose. Ça sèvera plus facilement en allant vers les côtes de la Manche et dans le nord-ouest, un petit peu moins près des frontières du nord-est où là le ciel restera plus nuageux. Et puis dans la moitié sud, toujours du grand soleil avec encore un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion. Côté température, attention, le matin sera parfois entre 0 et 5 degrés, pas très loin des gelées, notamment dans le centre ou encore le nord-est. Et l'après-midi, 14 à 19 degrés dans la moitié nord, 16 à 21 dans le sud.
Merci Louis.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, maintenant sur RTL, on va s'interroger tous ensemble sur notre futur en quelque sorte. Parce que demain, Emmanuel Macron va présenter son plan France 2030, des dizaines de milliards d'investissements pour dessiner les champions, les industries de demain. Le chef de l'État devrait s'engager pour le nucléaire et peut-être même annoncer la construction de nouveaux réacteurs. Ce sera donc le débat de la semaine. Faut-il, oui ou non, se passer du nucléaire pour les 10, 20, 30, 40 ans qui viennent? Deux visions de l'avenir s'affrontent. Vous avez peut-être, vous, du mal à vous forger un avis. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors déjà, dans l'immédiat Sophie, pas le choix, pas vraiment le choix. Il va falloir varier les sources d'énergie.
Oui, puisque la France s'est engagée à réduire sa production d'énergie nucléaire de 70 à 50% d'ici 2035, avec à la clé la fermeture de 14 réacteurs, 4 en plus des deux de Fessenheim d'ici 2028, et les autres par la suite. Pour compenser, il faudra donc utiliser plus d'énergie renouvelable qu'aujourd'hui. Première étape, passer de 20% aujourd'hui à presque 40% en 2028.
Bon, à long terme, maintenant, pour les 30, 40 prochaines années, vision numéro celle d'Emmanuel Macron, on mise sur le nucléaire, on mixe avec d'autres énergies, mais concrètement, on fait comment? Quel est le plan?
Alors si on reste sur un mix énergétique, 50% nucléaire, 50% énergie renouvelable, il va falloir construire de nouveaux EPR parce que les réacteurs qui auront survécu à la première vague de fermeture arriveront eux aussi en fin de vie aux alentours de 2050. On pourrait compléter avec des mini-réacteurs 10 fois moins puissants que les EPR pour des besoins localisés, alimenter une usine, une région ou des îles. Et bien sûr, il faudra continuer à développer les énergies renouvelables.
À long terme toujours, vision numéro 2, celle des écolos par exemple. D'ici 20 ans, on abandonne le nucléaire. Dans ce cas de figure, on fait comment ?
Alors c'est le scénario 100% renouvelable. On ferme tous les réacteurs d'ici 2050 et les énergies vertes prennent le relais. Alors ça veut dire multiplier par 10 la production photovoltaïque, par 2 l'éolien terrestre et développer l'éolien en mer pour qu'il atteigne un tiers de la production énergétique. Problème, pour l'instant, on n'a pas de parc éolien offshore en fonctionnement. C'est un scénario qui implique aussi qu'on pallie le problème des énergies renouvelables, c'est-à-dire leur intermittence, avec la mise au point de technologies de stockage de l'énergie pour l'utiliser quand il n'y a pas de soleil ou de vent. Ces scénarios 100% renouvelables prévoient aussi une très forte sobriété énergétique, donc une baisse drastique de notre consommation.
Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Tiens, dans un instant, on va demander son avis à Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle. Il sera notre invité. Pourquoi ? Parce qu'il provoque un autre débat ce soir. Faut-il priver d'élection les personnes condamnées pour racisme ? Dans son viseur, évidemment, Éric Zemmour. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Avec Julien Cellier.
Heureux.
Julien Cellier.
RTL Soir.
18h20, bonne fin de journée à l'écoute de RTL. Et ce soir, notre débat. Faut-il rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme ? Cette proposition, c'est celle de notre invité. Bonsoir Fabien Roussel.
Bonsoir.
Vous êtes le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle. Clairement, vous ciblez Éric Zemmour, déjà condamné 3 fois pour incitation à la haine raciale ou religieuse. Vous aimeriez qu'on puisse l'empêcher aujourd'hui d'être candidat ?
S'il n'y avait que Éric Zemmour. À l'approche des élections présidentielles et législatives, oui, il faut pouvoir garantir dans notre pays, dans notre République, un débat sans propos racistes, sans propos antisémites. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Alors comme l'inéligibilité existe dans la loi pour une série de crimes et délits, tels que par exemple détournement de fonds publics, eh bien je propose effectivement que l'on ajoute le délit de provocation à la haine raciale. Il existe aujourd'hui une loi, la loi Guesso d'ailleurs, qui était députée communiste et qui l'avait déposée en son temps, qui a fait du racisme et de l'antisémitisme un délit. Eh bien, faisons en sorte d'inscrire dans la loi ce délit comme une raison pour laquelle on puisse être inéligible. Et je déposerai donc une loi pour renforcer la répression des actes et propos racistes et antisémites et rendre inéligible
Fabien
ceux
Roussel.
Qui seraient... Je déposerai ce texte de loi d'ici jeudi. Ce sera déposé à l'Assemblée nationale et nous ferons en sorte qu'il soit débattu rapidement pour qu'il soit le plus vite possible inscrit dans la loi. Et j'espère avoir les soutiens les plus larges et de tous les bords républicains pour soutenir ce texte.
Éric Zemmour, en tout cas, il se sent visé puisqu'il vous a répondu assez sèchement. Pour lui, je cite, quand on est à 1 ou 2% dans les sondages, on n'a pas à se prononcer sur le casting des prétendants à l'Élysée.
Défendre les valeurs de notre République, s'opposer, condamner le racisme, l'antisémitisme, c'est pas une question de pourcentage. Je pense que là-dessus, nous serons, je l'espère, très largement majoritaires à soutenir un tel texte de loi. Le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Alors que Zemmour se sente accusé, comme le dit le proverbe, qui se sent morveux se mouche. Eh bien, je vois que lui... il doit se sentir largement morveux.
Vous avez pointé du doigt ces propos quand il dit que Pétain a sauvé des Juifs, quand il compare Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, au médecin nazi Mengele. Vous avez l'impression que des digues sont en train de sauter, que les condamnations de ces propos ne sont pas assez fortes, pas assez nombreuses. On a beaucoup entendu la gauche ces derniers jours, et notamment Yannick Jadot, ici même, dans ce studio vendredi dernier, parler de révisionnisme. Vous avez l'impression que la classe politique dans son ensemble n'est pas assez mobilisée ?
C'est comme s'il y avait effectivement une course à l'échalote à celui qui aura les propos les plus haineux, les plus stigmatisants des musulmans, des populations d'Afrique, puisque ce sont des catégories de population. C'est une religion qui est ciblée et même à droite, c'est la course dans ce domaine. Et on voit où cela conduit. Et c'est pour ça que je ne cible pas particulièrement Éric Zemmour. Il y a une extrême droite française qui aujourd'hui est en train de focaliser le débat politique et une partie de la droite qui court derrière. C'est extrêmement grave et c'est pour ça que nous devons tous nous en préoccuper. Alors quand je fais cette proposition de rendre inéligible, je vois bien que ça ne va pas régler le problème. C'est une manière d'essayer de mettre une sorte de digue pour que les futurs candidats ou les candidats actuels ne s'autorisent pas à aller plus loin. Mais il y a quand même un problème de fond dans notre pays et la haine ne remplit pas le frigo. Je souhaiterais, moi, que l'on parle plus des questions de pouvoir d'achat, de salaire, de vie digne, que le travail puisse nous permettre de vivre dignement. Cette préoccupation du pouvoir d'achat, elle est quand même au cœur des attentes de nos concitoyens. Or, on parle de tout sauf de ça.
Fabien Roussel, tiens, venons-en à l'actualité, justement parce que vous le savez, demain Emmanuel Macron va présenter son plan France 2030, grand plan d'investissement à plusieurs milliards d'euros pour dessiner les champions industriels de demain. Le président pourrait notamment annoncer la construction de petits réacteurs nucléaires. Ça, ce sera un peu le débat de la semaine. On vient de l'évoquer avec la brigade RTL. Est-ce qu'il faut, oui ou non, miser sur le nucléaire pour les 10, 20, 30, 40 ans qui viennent? Vous, c'est assez rare à gauche, vous dites oui.
Oui, je suis le seul à gauche à avoir pris une position forte et claire là-dessus, parce que nous disons que se priver du nucléaire dans les années qui viennent, c'est rendre l'électricité encore plus chère. Et c'est donc pénaliser encore plus les ménages, les familles, mais aussi les entreprises françaises qui payent de plus en plus cher leur électricité. Or, l'électricité nucléaire, quoi que l'on en dise, est l'électricité la plus décarbonée, c'est-à-dire qui va répondre aux enjeux climatiques. Et en plus, nous avons une capacité en France qui nous permet d'être indépendants, autosuffisants dans ce domaine. Sauf que d'ici 2035, 12 réacteurs nucléaires vont être fermés, car trop vieux et il faut les fermer. Nous ne disons pas le contraire. En revanche, pour compenser cette perte de production d'électricité décarbonée, il est urgent de lancer rapidement un plan de construction en série de mini-EPR. C'est ce que nous proposons en utilisant la technologie qui est maîtrisée aujourd'hui de ces EPR qui permet de consommer quasiment la totalité de l'uranium. Alors que ce que propose Macron, c'est d'utiliser qu'une infime partie de l'uranium que nous avons et donc de produire beaucoup de déchets. C'est pour ça que je vais au-delà de ce que propose le président de la République, c'est de construire une série de mini-EPR permettant d'avoir le moins de déchets nucléaires possible.
Dernière question, Fabien Roussel. Cette question, je l'ai posée à Anne Hidalgo et à Yannick Jadot, qui étaient aussi invités sur RTL la semaine passée à la même heure. À gauche, il y a 7 candidats. Si on additionne les intentions de vote dans les sondages, tous ensemble, vous êtes 30%. Les auditeurs de gauche qui nous écoutent, ils se disent peut-être, mais c'est du gâchis. Chacun dans leur coin, ils ne peuvent pas atteindre le second tour. Vous êtes bon en maths, j'en suis sûr, Fabien Roussel. Vous aussi, vous avez dû faire le calcul, non ?
Bien sûr, et je comprends ces préoccupations, mais vous voyez, on vient de parler du nucléaire, et derrière, je parle tout de suite du pouvoir d'achat de nos concitoyens, des ménages et des entreprises. Je prends des positions courageuses sur des sujets comme celle-là, par exemple. Je prends des positions courageuses, comme par exemple parler de la tranquillité publique des familles, des quartiers populaires, et de faire en sorte que nous puissions leur assurer et des services publics et de la police de proximité. J'ai pris des positions, prends une position forte sur les traités européens, et je demande à ce qu'on sorte de cette concurrence déloyale entre les peuples d'Europe qui tirent tout par le bas. À gauche, nous ne sommes pas nombreux à porter cette voix forte sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je le dis aux Français qui m'interpellent sur ce rassemblement de la gauche. Ils veulent que l'on recommence ce qu'a fait Hollande quand il s'est uni avec les Verts en 2012. Ils veulent que l'on refasse ça, que l'on fasse cette union d'une gauche qui ne répond pas aux attentes des quartiers populaires, qui ne va pas justement mettre ces questions du travail, de l'industrie, des services publics au cœur de la France, alors que c'est tout l'enjeu. Eh bien, justement, moi, je voudrais porter un nouvel espoir à gauche. Et j'appelle à ce qu'on se rassemble derrière ces propositions que je porte. Je porte une France des jours heureux, des réformes heureuses pour mettre l'argent au service du développement humain et de la planète. C'est pas compliqué, mettre nos richesses au service du développement humain et de la planète. Rassemblons-nous autour de ça. Et c'est l'appel que je lance. Et donc je le lance à l'ensemble des candidats de la gauche.
Il est entendu, Fabien Roussel.
Il faut se rassembler derrière les réformes heureuses qu'attend le peuple de France.
Merci Fabien Roussel, candidat à la présidentielle du Parti communiste, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On va marquer une petite pause et puis ensuite on a deux bonnes nouvelles. Petit 1 dans les dessous de l'actu, une pêche très vertueuse. D'après l'Ifremer, les stocks de coquilles Saint-Jacques sont plus abondants que jamais en France. Je vois le sourire de Louis derrière son masque. Et puis petit 2 dans Laissez-vous tenter dernière, on va vous en dire plus sur le nouvel album d'Astérix. A tout de suite sur RTL.
RTL soir, Julien Sellier. Mange tout.
18h31 minutes.
RTL Soir avec Julien Cellier.
C'est l'heure de vous rappeler les grands titres de l'actualité. Marion Calèche.
Je sais que je suis irréprochable après avoir été entendue suite à un coup de filet anti-drogue. La maire de Canteleu s'explique. Elle estime que sa garde à vue n'était pas justifiée. On l'entendra tout à l'heure dans le journal de 19h. Les prévisions revues à la hausse du gouvernement pour la croissance. 6,25%, c'était 6 jusqu'à présent. Et puis il signe le meilleur démarrage de l'année au cinéma. Le dernier James Bond a enregistré près d'1,2 million entrées en 5 jours.
Dont la vôtre, hein, je crois, oui. Marion. Merci Marion, bonne soirée. Le temps, Louis, pour demain?
Il y a toujours du temps sec hein, dans toutes les régions, avec quelques nuages bas, quelques brouillards le matin qui devraient se dissiper l'après-midi. Je dis qu'ils devraient parce que ce ne sera pas sûr. Dans les régions du nord-est, hein, les nuages resteront peut-être un peu plus conséquents. Il y en aura beaucoup moins dans l'ouest, alors pas du tout dans le sud. Il y aura toujours un peu de mistral et de tramontane près de la Méditerranée. Puis les températures, grand écart entre le matin où parfois on frôlera les gelées du centre au nord-est. Et l'après-midi, on aura 14 à 19 degrés dans la moitié nord et 16 à 21 dans la moitié sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL va vous expliquer comment protéger nos espèces marines. Rendez-vous compte, nous battons des records de pêche de coquilles Saint-Jacques. 150 000 tonnes disponibles dans les baies de Seine et de Saint-Brieuc. C'est du jamais vu. Et surtout, Virginie Garin, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
C'est un formidable exemple parce que ça signifie que quand on veut faire attention, on peut et tout le monde y gagne.
Et oui, pour préserver leur métier et avoir toujours des coquilles, les pêcheurs ont accepté des règles drastiques. Et les résultats se voient surtout depuis 5 ans. Alors à Saint-Brieuc, la pêche est limitée de fin octobre à avril, 45 minutes seulement par jour, 2 jours par semaine. Même chose en Normandie, en Baie-de-Seine. Là, comme c'est beaucoup plus grand, ils peuvent pêcher 2 heures par jour. Les trous des filets, les anneaux ont été agrandis pour ne pas attraper les jeunes coquilles. Et depuis 5 ans, donc, les scientifiques de l'Ifremer constatent que les populations de coquilles augmentent sans cesse.
Est-ce que ces stocks records vont permettre d'éviter une énième guerre de la coquille entre les pêcheurs français et britanniques?
Ah oui, alors les Britanniques, eux, vous savez, ils pêchent toute l'année, 24 heures sur 24, avec des gros bateaux industriels. Les résultats là-bas sont édifiants. Au large de l'Irlande ou de l'Écosse, on trouve sur 100 mètres carrés une coquille. Eh bien, en France, sur la même zone, il y en a 100 fois plus. Oui. Donc les Britanniques, eh bien, ils viennent depuis des années pêcher chez nous, ce qui énerve les Français. Mais cette année, ils ont accepté pour la première fois de respecter enfin les dates d'ouverture et de fermeture. Alors, ils ont peut-être enfin compris le concept de pêche durable. Comme en plus, il y a plus de coquilles cette année, ça devrait apaiser les tensions.
Ben voilà une bonne nouvelle. Les dessous de la pêche à la coquille ce soir sur RTL avec Virginie Garin. Merci Virginie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, la suite maintenant sur RTL, c'est cette respiration. Bienvenue chaque soir à la même heure. Laissez-vous tenter dernière ou les jolis conseils de la bande de LVT pour occuper vos soirées. On va se projeter un petit peu avec Monique Younes ce soir. Bonsoir Monique.
Bonsoir.
On va se projeter sur l'un des livres, en tout cas une bande dessinée qui sera lue, relue dans toutes les familles françaises d'ici quelques semaines parce qu'on connaît depuis ce matin la couverture du prochain album d'Astérix. Astérix, c'est le Griffon. Mm-hmm. Ça paraît le 21 octobre. Couverture qui nous apprend beaucoup de choses sur la destination de nos deux héros gaulois.
Mais oui, à regarder la couverture, on se dit qu'il y a comme un vent de panique qui souffle sur Astérix et Obélix. Alors on voit Astérix qui fait une drôle de tête jugée sur un poney. À l'arrière-plan, le totem d'un griffon, vous savez cet animal à la tête d'aigle et au corps de lion. Mmh. Idéfix a grimpé sur le totem et Obélix n'arrive pas à le faire descendre. Tout ça dans un paysage enneigé qui sent bon l'aventure, m'a dit le scénariste Jean-Yves Ferry.
On va aller tout droit vers les confins de l'Europe de l'Est, en fait. Mais une Europe de l'Est un peu fantasmée, c'est-à-dire entre la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Russie, tout ça. Ça en dégage un petit parfum d'aventure, je dirais.
Ben oui, dans ce pays qui n'existe pas vraiment, Jean-Yves Ferry va nous faire découvrir le peuple des Sarmates et par leur biais, toute la tradition slave.
À chaque album, il faut trouver un thème en résonance avec aujourd'hui. Là, c'est effectivement plutôt le côté spirituel et aussi la manière dont les Romains, donc nous-mêmes en fait, on appréhende la nature en général.
Et alors, est-ce que Obélix va trouver des sangliers dans ce pays imaginaire qui est un mélange, on entendait Hongrie, Roumanie, mais aussi d'Ukraine, de Russie, de Kazakhstan, de Mongolie?
Mais vous relevez le gros problème. Ah. La nourriture des Sarmates à base de lait de jument fermenté ne réussit pas du tout, mais pas du tout, du tout à Obélix. Je dirais même qu'elle lui déclenche de graves problèmes digestifs. Ça n'empêche pas mon Obélix chéri de tomber amoureux. Ah, s'il pouvait se caser, celui-là. Astérix et le Griffon, vous l'avez compris, est une histoire de quête, un conte qui met en scène la façon dont on appréhende aujourd'hui la nature. Mais rassurez-vous, l'histoire se termine par un banquet, sinon, oh, grand sacrilège.
Ah bah oui, effectivement, les grands et les petits ont hâte. Rendez-vous le 21 octobre chez tous les bons libraires pour découvrir Astérix et le Griffon aux éditions Hachette. Merci Monique.
Merci à vous.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et on va marquer une courte pause maintenant dans RTL Soir avant de défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement pour faire le plein de connaissances, pour briller au dîner avec Cyprien Signy, Laurent Tessier, Arthur Asquin et Céline Landreau ici en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Dans un instant, en plein débat sur le secret de la confession, on va s'interroger que dit la loi exactement. A tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.